Pas une lettre, pas un coup de fil, pas un billet de 500, même pas un petit voyage à l'île Maurice, rien quoi. Daniel, ingrat.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Alors, à ce qui paraît, vous bossez sur une radio de Bolchaux. Si, c'est, vous savez, la fille du père là, qui l'a dit ce matin. Alors les AMG, méfiez-vous, que ça s'est jamais à passer au pouvoir. On irait tous en tôle, si. Et comme disait Colin et Maudouin, surtout, ne lâchez rien. Salut à tous et encore merci pour là-bas, c'est génial.
Oui, bonjour, c'est pour souhaiter tout simplement de belles vacances à tout le monde, en espérant retrouver tout le monde à la rentrée. Et pour dire merci pour une fin de saison. Allez, je vous embrasse tous, au revoir.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Je viens d'écouter les émissions Champagne, toutes ces jolies émissions.
Un petit peu la pente et puis combattre véritablement le racisme, l'islamophobie ou même l'homophobie, bien entendu. Voilà, donc jeudi soir, 20h30, bar le grattoir, venez nombreux, on boira un coup de toute façon.
Oui, bonjour. Alors, j'ai entendu que les coureurs du Tour de France allaient escalader deux fois l'Alpe d'Huez. C'est quand même pas rien. Alors, pour la première ascension, je leur conseille de prendre un petit verre seulement de Jaja 95. Par contre, pour la deuxième, là, ça va être terrible, 1 demi-litre de Jaja 98. Ça, c'est du bon. Le Jaja 98, c'est parfait. Allez, bon courage. À bientôt.
Oui, bonjour. Là. Moi, je voudrais savoir, là, le générique de l'émission, il y a bien une moto qui roule, là. Alors, je voudrais bien qu'il y ait une émission sur les motards qui font de la route, qui font des concentres, qui se font plaisir, et qui font de la moto, de la vraie moto, pas de la moto d'opérette, là. Voilà, merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de juillet.
Ben voilà, on se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique au grand complet, autour de ce captivant numéro de juillet, et on va tout de suite attaquer avec Laurent Cordonnier, qui donne un papier sur le coût du capital. Alors, le coût du capital, on pourrait penser que le problème que nous avons tous, en fait, cher Laurent Cordonnier, c'est le travail, c'est le coût du travail. Or, vous nous dites, ben oui, bien sûr, ça coûte cher, mais si on veut vraiment accroître notre compétitivité, et ça, c'est un mot terrible pour tous les animateurs, les journalistes, compétitivité, comme pour les hommes politiques, eh bien, bien sûr, il y a le coût du travail, mais il y a aussi vous expliquer dans ce Thank you.
ensuite, il nous reste la partie de la rente indue qu'on compare à l'investissement productif.
Alors, la part indue, le coût financier improductif, le coût de la finance improductive, c'est quand même énorme. Vous sortez un chiffre de 94 milliards d'euros pour notre pays, qui est quand même mal en point.
94 milliards d'euros, effectivement, une fois déduit ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui pouvait se justifier. Et si on le compare à l'investissement productif annuel, qui est plutôt de l'ordre de 200 milliards pour l'ensemble des sociétés non financières, on a une espèce de surcoût du capital de l'ordre de 50%.
Parfaitement parasitaire.
Ah ben, complètement parasitaire. Et alors, on pourrait même dire plus que parasitaire. Alors ça, c'est une mesure point bas, parce que quand on fait ce genre de travaux, on essaie de pas se mettre dans la position de se prendre une volée de bois vert dès le lendemain. Donc on prend vraiment des estimations les plus basses possibles. Mais si on comparait cette rente indue non pas à l'investissement annuel, mais seulement à la partie de l'investissement annuel qui se dégrade, c'est-à-dire c'est vraiment ça le coût du capital, c'est le capital qui s'abîme et qui s'use chaque année, ou qui devient obsolète. Là, on n'aurait pas 50% comme mesure, on aurait 70%. Ça veut vraiment dire que quand un travailleur français est capable, ou grec ou américain, est capable de produire ses moyens de production et ses outils pour 100 euros, profit compris, marge de profit compris, se rajoute à ça une espèce de surmarge de l'ordre de 50 à 70 euros qui sert à payer de manière improductive. Voilà. Alors, c'est plus qu'une ponction sur le travail et l'entreprise en général. Parce que si on regarde cette ponction globalement sur la richesse produite annuellement, alors, c'est pas rien, hein. Depuis les années 80, elle a été multipliée par 3. 3% de la richesse produite dans les années 80 était à destination des prêteurs et des actionnaires. Aujourd'hui, c'est 9%. C'est déjà de l'argent qui ne va plus dans la poche des travailleurs et qui ne va pas forcément dans la poche de gens entreprenants. Ce sur quoi on insiste, c'est que c'est bien plus que l'effet de prédation ou de ponction sur la richesse nationale. C'est l'effet, comme on dit aujourd'hui de manière furieusement moderne, c'est l'effet de benchmark qui est le plus fort. Hein, tu vois, Daniel, benchmark.
Benchmark, je le répète.
Là, ça fait sérieux, on commence à voir. Oui. Alors, cet effet de benchmark, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ça, c'est l'exact revers de la norme financière dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les exigences actionnariales qui pèsent sur l'entreprise. Et quand on dit aux entreprises, nous, on veut que ça rapporte du 15%, nous, les actionnaires, on veut que ça rapporte du 15%, ça veut dire que tout projet d'investissement, pour être mis en œuvre, doit dégager cette rentabilité financière et donc doit supporter ce surcoût qu'on indiquait.
Et vous conseillez de prendre la mesure du cimetière des idées.
Très bon. Il y a une période où on rentre à
les pneumatiques fichiers, les traits qui ont risque, qui ont un curieux. Donc, la masse, c'est à la fois la maladie de terroriser les qui font le et en forcément à l'évolution de ceux. Mais, quand la Russie, quand la Chine, 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 la Chine,
destiné à évaluer le self-control et la motivation des enfants, nous l'avons refait avec des enfants d'aujourd'hui, quitte à plonger des bambins de 4 ans dans un cruel dilemme. Dans ce jeu, il y a deux assiettes. Regarde, j'en mets un ici et deux là. Tu préfères deux guimauves ou une guimauve ?
Deux
guimauves, ok. On va faire la chose suivante. Je vais sortir pour terminer un petit travail. Mais tu peux m'appeler à tout moment en appuyant sur la sonnette. Si tu le fais, tu auras seulement une seule guimauve. Si tu attends que je revienne, tu auras deux guimauves. D'accord ? À tout à l'heure.
Les enfants qui ont passé ce test en 1970 ont aujourd'hui dépassé la quarantaine. Au fil des années, ils ont été régulièrement consultés. Ceux qui, à l'âge de 4 ans, ont été capables d'attendre un quart d'heure, ont mieux réussi leur test d'admission à l'université. Ils gagnent aussi mieux leur vie. Ils sont plus heureux en ménage et en meilleure santé que ceux qui ont tout de suite englouti leur guimauve.
Deux assiettes. Très bien. Nous avons tous terminé. Merci d'avoir joué.
On continue avec le diplôme de ce mois de juillet et à nouveau une page économique avec Laura Rem. Il va falloir que j'apprenne à prononcer behavioral economics, Laura.
La behavioral economics, on peut traduire ça par économie comportementale, qui est donc le nouveau courant à la mode. La crise a été une catastrophe pour les économistes, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan déontologique. Les économistes dominants, du courant néoclassique, avaient martelé depuis 30 ans que les agents économiques étaient rationnels et donc que les marchés financiers étaient efficients. Et donc que c'était pas la peine de les réguler, et c'était cette théorie qui avait pu justifier la dérégulation. Et on a vu ce que ça a donné avec la crise de 2008, l'efficience des marchés. Ça, c'est pour le plan théorique. Et sur le plan déontologique, la crise a révélé à quel point les économistes étaient maqués avec la finance. Le Monde diplomatique, notamment, avait écrit beaucoup d'articles sur ces conflits d'intérêts qui expliquaient que finalement, beaucoup d'économistes étaient très peu critiques envers la financiarisation de l'économie. Aujourd'hui, les économistes disent « on a tiré les leçons de la crise, on a fait le principe, on a revu le théorie, on a personnel, il y a pour un institut économique, on est mis en santé. » Et c'est un grand parrain qui responsabilité du déclaration de l'économie, en question de succès, on est vraiment plus à exposer à avoir cela. Alors, pour la D'une théorie qui remettait en cause l'efficience des marchés. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas se contenter seulement de recenser tous nos biais cognitifs qui nous empêchent de prendre les bonnes décisions. À partir de ces biais, ils vont développer des techniques pour exploiter ces biais et trouver des moyens de nous inciter à prendre les bonnes décisions. C'est ce qu'ils vont appeler le nudge. C'est développer ces petits coups de pouce, ces petites incitations amicales qui permettent de prendre la bonne décision. Alors, ça peut être dans des domaines un peu inoffensifs, ça peut être très développé aux États-Unis sur des questions d'environnement, de santé, pour aider les Américains à ne pas être obèses ou à payer leurs factures à temps. On va découvrir que envoyer une amende, c'est moins efficace que d'utiliser le biais de la comparaison à autrui. Donc, si on envoie une lettre qui dit « Vous êtes le dernier de votre quartier à avoir payé votre facture », ça sera plus efficace pour qu'il la paye, la facture. Bon, c'est pas bien méchant, mais c'est quand même ce qu'ils appellent du paternalisme libertaire. Mais là où c'est vraiment problématique, c'est que ces techniques qu'ils développent pour exploiter ces biais cognitifs, c'est de la manipulation, c'est des techniques de conditionnement. Et c'est pas toujours bienveillant. Si c'est pour ne pas devenir obèse, bon, pourquoi pas, mais le paternalisme, ça se discute aussi. Mais là où c'est plus du tout bienveillant, c'est quand les économistes comportementalistes vont vendre leur expertise aux entreprises privées et leur donner des techniques pour, par exemple, accroître la productivité de leurs employés. Et on a vu un exemple de ce que ça peut donner. Ils ont mené une expérience avec des profs. Ils ont vu que promettre aux profs de leur donner une prime à la fin de l'année si leurs élèves avaient des bons résultats était inefficace. Alors ils se sont dit « Ah, mais il faut qu'on utilise l'aversion à la perte, le biais de l'aversion à la perte. » On va leur donner la prime au début de l'année et on va les menacer de la retirer à la fin si les résultats ne sont pas bons. Et apparemment, ça a permis d'accroître la performance des élèves.
Ça s'est fait où, en France ?
Non, ça c'était aux États-Unis. C'est surtout aux États-Unis qu'il y a le plus d'expérience. Mais en France aussi, on s'y intéresse. Le Conseil d'analyse stratégique a recruté un chercheur en neurosciences et il mène ce genre d'expérience plutôt dans le domaine de l'hygiène, de l'environnement, de la santé. Et c'est là où ça devient problématique, c'est quand cette science systématique des comportements humains débouche sur un projet de conditionnement, de manipulation généralisée.
Oui. Allah Bachar les sauvages, emballe vite tous tes bagages, retiens ton armée sauvage, ou Ya Allah Bachar dégage.
Ya Allah Bachar dégage.
Ou Ya Allah Bachar dégage.
Ya Allah Bachar dégage.
Ou Ya Allah Bachar les combats.
الكلمات معاني والمعاني متقاطعة قطعة مشوار طويل روحه وانا
dit, c'est une alliance entre deux dictatures. C'est pas tellement ça la question. Depuis 30 ans, la Syrie a été un allié indéfectible de l'Iran pour des raisons géopolitiques qui n'ont rien à voir ni avec la religion, ni avec rien. Et je rappelle qu'au moment où Saddam Hussein, l'Irak, a envahi l'Iran et où tous les pays du Golfe soutenaient Saddam Hussein, la Syrie a été la seule à dire non à cette politique. Donc l'Iran ne peut pas accepter de perdre cet allié. Et les Russes non plus, parce que ça reste leur dernier allié solide dans la région. En plus, les Russes, en général, depuis le début des révolutions arabes, ont peur du développement de l'islamisme. Ils ont toujours eu une vision très, très négative des mouvements islamistes, d'autant plus négative qu'ils ont 20% de la population russe qui est musulmane.
Oui, oui, oui.
Et qu'il y a un développement dans cette population de courants wahhabites, extrémistes, etc. Donc, je crois qu'on n'a pas mesuré ce soutien.
Il y a aussi la volonté russe de compter sur la scène internationale.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je cite un diplomate égyptien qui n'a pas une grande sympathie pour les Russes, mais qui dit « Depuis 20 ans, toute la politique occidentale a été de marginaliser la Russie. Même quand Boris Eltsine était un allié proche, Malgré toutes les promesses et les engagements que l'OTAN n'allait pas étendre ses frontières, etc., l'OTAN est arrivée jusqu'aux frontières de Russie, les Russes ont eu l'impression qu'on les marginalisait. Et que
c'est le vieux logiciel anti-soviétique qui a continué de tourner.
Voilà, c'est devenu anti-russe, simplement. Et d'ailleurs, je dirais, quand on lit la presse, des fois, qui parle de la Russie, on retrouve les accents de... Alors, c'est, le régime russe mérite beaucoup, beaucoup de critiques, mais je veux dire, il y a une espèce de schématisme comme ça qui est... Donc, il y a cet engagement russe et iranien que je pense les Occidentaux ont négligé. Et face à ça, bien sûr, l'opposition reçoit beaucoup d'aide, mais une aide qui est extrêmement divisée. C'est-à-dire que chaque acteur de l'aide aux rebelles syriens a une stratégie différente. Le Qatar aide les frères musulmans, l'Arabie saoudite qui est les frères musulmans aide d'autres courants. En même temps, l'Arabie saoudite a peur d'Al-Qaïda parce que Al-Qaïda a mené des actions militaires contre eux. Les Turcs ont leur propre stratégie, les Français ont une stratégie qui est différente des Allemands. Et là-dessus, les États-Unis n'ont pas un rôle moteur. Et c'est un des aspects, alors il faut savoir si c'est durable ou non. Les États-Unis qui ont été battus en Irak et qui sont en train d'être battus en Afghanistan... n'ont pas envie d'une nouvelle aventure militaire. Donc, il n'y a pas eu, contrairement... Bon, c'est vrai qu'il y a des armes qui arrivent aux insurgés, mais c'est vrai en même temps que ces armes, en qualité, sont relativement limitées jusqu'à maintenant.
Thank you.
ne s'attaquerait pas aux intérêts israéliens. Donc on est dans quelque chose qui est vraiment très, très difficile. Et donc je dirais le risque essentiel, c'est l'extension du conflit. Il n'y a pas de solution politique à court terme. Et alors là, je voudrais dire un mot sur Genève 2.
Genève 2, c'est...
C'est l'idée d'une conférence sponsorisée par les Russes et les Américains dans laquelle l'opposition et le régime négocieraient. Je pense que c'est très important qu'il y ait cette conférence. Mais il faut, je dirais, poser aujourd'hui dans cette conférence la question de l'avenir du régime est totalement stupide. Il n'y a aucune solution politique possible. En revanche, ce qui est possible et ce qui devrait être, à mon avis, l'attitude de la, ce qu'on appelle la communauté internationale dans ses différentes composantes, c'est de dire, oui, il faut une conférence pour aller vers une désescalade. C'est ça le maximum qu'on peut obtenir, la désescalade et retour des réfugiés. Il y a, je ne sais pas, je crois qu'il y a 4 millions de réfugiés auxquels il faut rajouter des millions de personnes déplacées. On voit les destructions et la communauté internationale, toute tendance confondue, qui n'arrête pas de pleurer à juste titre sur la situation des réfugiés, il y a très peu d'aide. C'est-à-dire, je crois que les Nations Unies ont fait des demandes et ils ont obtenu un tiers de l'aide qu'ils ont demandé. Donc, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est une désescalade de ce conflit qui permettrait petit à petit un début de négociation politique, le départ des combattants étrangers qui sont là, et d'éviter que le conflit s'étende. Mais c'est le maximum qu'on peut opposer, qu'on peut demander. Aujourd'hui, l'autre risque, évidemment, qu'on voit d'ailleurs au Liban, c'est l'escalade des combats au Liban, c'est l'escalade des combats en Irak. C'est-à-dire, on ne voit pas, on n'en parle pas beaucoup, l'Irak, maintenant, mais il y a tous les jours, je veux dire, une insurrection, si on peut dire, des provinces sunnites contre un pouvoir qui est considéré comme chiite. Donc, il y a vraiment un risque de remise en cause, y compris des frontières telles qu'elles sont nées de la Première Guerre mondiale.
Mais comment faire, allons-nous faire ? Belgique, Espagne ou Angleterre ? Algérie, Écosse ou Mali ? Égypte, Irlande ou Laponie ?
On va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crues et la peste et le choléra. La comédie triomphera.
Je veux l'Islande étincelante, les pays de miel et de morte, aux populos doux et sauvages, avec un rire fin et sage. Mais comment faire, allons-nous faire? Belgique, Espagne,
thank you.
En Égypte ou en Tunisie, nous n'avons pas à comparer avec ce qui se passe en France. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus lié à ce qui peut se passer en Europe, dans ces démocraties assez apaisées. Parfois, on pourrait presque regretter qu'elles soient si apaisées, d'ailleurs. Et d'essayer de comprendre réellement quels sont les enjeux de cette grande dichotomie, dont on ne parle plus guère d'ailleurs, mais en tout cas sur l'art militant, par exemple, ça existe que dans des franges. En revanche, ce qu'on voit beaucoup, c'est une espèce de label d'engagement un peu partout, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus quand même des textes, de n'importe quoi, des performances, du théâtre, où il y a une injection un peu de politique, un peu de social, bon, et on va considérer que ça va être ça, de l'art politique. Donc, il me semblait que c'était assez important, et de refaire l'histoire, c'est-à-dire de voir où s'est née cette complication-là, pourquoi, ce que ça raconte, et comment on s'en sort. Alors, je crois que c'est quand même, d'une part, important, et d'autre part, émouvant, de voir quand ce n'est, pourquoi. Là, je prends Baudelaire parce que c'est le plus caractéristique, mais on aurait pu prendre Musset qui raconte ça absolument magnifiquement dans les Confessions d'un enfant du siècle. Quand il raconte que lui, il fait partie de la génération de ceux qui ont eu des pères ou des grands-pères héros. Il y a eu une période où il y avait des rêves, et lui, il arrive, il n'y a plus aucun rêve. On est dans un monde ordonné, on ne peut que regretter. Baudelaire, c'est encore pire, parce que Musset, c'est avant. Donc Musset, il a quand même eu la chance de voir quelques petites révolutions. Baudelaire, lui, a participé à la révolution de 48. Donc avec tout le fond derrière, les grandes révolutions, enfin, la grande, même l'épopée napoléonienne, c'était quand même pas uniquement du massacre, ça portait encore des idéaux. Il participe à une révolution, il y croit à fond. Et après, lui qui était pour un art non pas utile, mais un art véritablement politique. Politique et utile, ça fait deux. L'utile, c'est ce qui a été dit pour déconsidérer le lien entre l'art et le politique et faire croire que l'art était, comme ça, je ne sais pas, une espèce de bulle sortie dans on ne sait d'où, de la Grèce ancienne, je suppose. Donc là, à ce moment-là, lui, il était pour un art lié au politique qui puisse raconter, qui puisse donner, dire les rêves et en proposer d'autres. 48, c'est mort. Au fond, Baudelaire aussi. C'est-à-dire qu'il n'est plus que dans ce déchirement, cet exil. Il se dit, bon, d'accord, on ne peut plus ça, c'est plus possible. Le monde où je vis, je le hais. Ce qu'on propose comme idéal, c'est effectivement ces histoires d'économie. Hein. C'est le enrichissez-vous, les caisses d'épargne. Soyez Ces idées qui reviennent, c'est-à-dire que là, l'artiste est justifié uniquement par la monnaie. C'est ce qui se passe beaucoup quand même dans les beaux-arts, comme on disait autrefois. Et l'autre versant, ça va être par l'art, l'insertion sociale des défavorisés. Enfin, tout ça n'a quand même strictement rien à voir. Donc, toutes ces questions-là ont été posées, reposées à des temps très précis, mais où là, apparemment, la bonne idée, c'est quand même de rappeler que l'art, c'est une pratique particulière, avec des moyens particuliers, et que c'est en tant qu'art qu'il peut avoir une fonction politique large. Large. La dite fonction politique étant finalement, et ça je trouve ça magnifique personnellement, de rappeler que l'homme n'est pas fini et que le monde n'est pas fini. C'est-à-dire que si une œuvre vous permet de sentir qu'en vous-même, il y a quelque chose qui fait exil, qui manque, etc. Et que dans la société, il y a un truc qui ne va pas, pour dire les choses simplement, ça a une fonction politique majeure, qu'on voit quand même de moins en moins, et qui n'a strictement rien à voir avec l'animation culturelle.
Evelyne, vous dites aussi comment le mot « art » est repoussé aujourd'hui à la faveur du mot « culture », on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, que ce mot culture, art, on ne savait pas trop non plus. En tous les cas, le mot n'existe plus, quoi.
Mais si, si. Non, le mot n'existe plus. C'est quelque chose qui est très, très symptomatique, quand même. On n'en veut plus de l'art. On veut maintenant la culture ou de la pratique artistique amateur, je sais pas, pour développer de la créativité, pour renforcer le lien social. C'est un mystère total.
Le vivre ensemble, Evelyne.
Le fameux vivre ensemble. Alors que, logiquement, l'art, c'est justement fait pour montrer où c'est un peu compliqué de vivre ensemble. Donc, évidemment, on se ressent en juillet parce que c'est la grande période des festivals. Et c'est vrai que si on regarde les programmes, par exemple, soit dit sans méchanceté, du Festival d'Avignon, c'est une quintessence de cette confusion, c'est un brouillon de culture là, vraiment, hein. C'est plus le bouillon, là, c'est le brouillon. Et évidemment, c'est lié quand même au fait que les valeurs dominantes, vous savez ce que disait Bossuet là, on se plaint beaucoup des conséquences, mais on remonte jamais aux causes. Bon, il y a de ça, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, ça ne va pas, hein, tout le monde. Dans l'art, dans la culture, dans le social, dans la politique, dans le système, ça ne va pas. Donc on va dire beaucoup ça ne.
ceci ou sur cela. Évidemment, pour faire des émissions, il y en a pas de la suite.
En abattage, on descend les gens comme du gibier.
France Inter et le Château de Versailles présentent tous les samedis jusqu'au 14 septembre les grandes eaux nocturnes de Versailles. Dans le jardin, la poésie d'une promenade mise en eau, en scène et en lumière, ponctuée de musique baroque, illuminé par un feu d'artifice final. Retrouvez les grandes eaux nocturnes de Versailles dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du festival Arte Flamenco du 1er au 6 juillet à Mont-de-Marsan. Tous les grands noms du flamenco, Maria Parrés, La Moneta, Dorantes, Diego Amador, Mercedes Ruiz, Thomas Tito, Arcangel, Esperanza Fernandez, Farruquito, fêteront avec le public ce 25e anniversaire avec des soirées bodega, des expositions et du flamenco de rue. Retrouvez le festival Arte Flamenco dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur France Inter, on se retrouve demain 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon, salut.
Train et métro à l'arrêt, transport aérien perturbé, nouvelle grève générale contre l'austérité au Portugal. C'est la quatrième depuis que le pays vit sous assistance financière internationale. À Bruxelles s'ouvre tout à l'heure un nouveau sommet européen. L'Union européenne qui pourra dépenser jusqu'à 3,5 milliards d'euros pour aider les plus pauvres, c'est du moins ce qu'affirme Thierry Repentin, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Les institutions européennes qui sont arrivées à un compromis sur le budget 2014-2020. Le Parlement européen a obtenu le milliard d'euros supplémentaires qu'il réclamait. En France, l'inquiétude de la Cour des comptes, elle redoute un dérapage des déficits publics. Vu la croissance atone, le déficit pourrait déraper autour de 4% fin 2013 au lieu des 3,7% attendus. La Cour des comptes, qui exige d'urgence des coupes dans les dépenses sociales, elle propose de couper dans les allocations logement ou encore de désindexer les retraites ou les prestations sociales. Et dans ce contexte, sans doute la fin du tout TGV, le Premier ministre se dit favorable au rapport Duron qui prévoit de reporter après 2030 la plupart des projets de nouvelles lignes TGV. Seule la ligne Bordeaux-Toulouse pourrait être maintenue, du moins si les finances le permettent. L'accent serait mis sur les lignes de proximité, les trains régionaux ou les trains corail qui ont besoin d'être rénovés.
Et vous pouvez aussi aller consulter France Festival, c'est une adresse internet, donc www.francefestival.com. Et voilà, et puis quand on est en villégiature dans un petit endroit, eh ben on peut toujours regarder les affiches, on peut toujours demander ce qui se passe, et comme ça, on est quelquefois bien renseigné aussi. Néanmoins, on va consulter Diapason pour commencer, avec un de ces diapasons d'or France Inter, que nous affectionnons, c'est-à-dire que Diapason, Belle Revue, évidemment pour l'amour du classique et la passion de l'excellence en ce qui concerne la hi-fi, donne des diapasons et nous les renforçons quand nous aimons particulièrement un enregistrement. Eh bien voici la première étude du deuxième cahier de Frédéric Chopin par un grand aventurier qui a été diplomate, voyageur, Jorge Bolet. Jorge Bolet qui a été aussi avant tout un interprète de Liszt, mais il jouait aussi bien son petit frère en musique, Chopin.
Par exemple,